Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International, le groupe d'Évreux, pour la première émission du mois de mai. Donc, on est le 15, c'est ça ? On est le 15. On finit par être perdu avec tous les jours fériés et les ponts qu'on a eus, là. On ne sait plus comment on vit. Donc, avec moi autour du micro, il y a Claire-Lise.
Bonjour.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Rodan.
Bonsoir.
Et puis, il y a moi.
Donc le moi, c'est comme d'habitude, c'est Didier. Voilà.
Je crois qu'on devait être les mêmes la dernière fois, donc c'est pas la même équipe.
Si.
Il me semble. Oui, hein. Il me semble. La dernière émission, je crois qu'on était déjà tous les équipes.
Elle était très bonne. Hein.
Voilà, c'est oui. Une équipe qui gagne.
On va pas dire que c'est la meilleure, mais elle est pas mal.
C'est une équipe qui gagne, c'est ça. Donc pour commencer ce soir l'émission, on va vous parler d'une actualité très dramatique dont vous avez forcément entendu parler. Ce qui se passe à Gaza depuis hier, effectivement, avec les affrontements entre l'armée israélienne et les Palestiniens. Et qui fait qu'il y a déjà, à l'heure actuelle, plus de 50 manifestants palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne. Alors, je vais vous en dire deux choses. Une première chose, c'est la déclaration qu'a fait le vice-président d'Amnesty International France hier sur l'antenne de France Info. Il est intervenu par rapport à ça. Et puis dans un deuxième temps, on va faire un petit lien avec une campagne que fait Amnesty maintenant, on va d'ailleurs vous demander d'y participer, qui est une campagne pour demander des comptes à la France pour les ventes d'armes qu'elle continue à faire en Arabie Saoudite et qui servent à une autre guerre civile qui se passe
au Yémen.
Voilà. Donc on va faire un lien entre les deux, parce qu'il est bien évident que quand on parle de crimes de guerre et d'exactions, eh bien c'est plus intelligent d'agir en amont et d'essayer d'éviter que les États puissent s'armer, je dirais en veux-tu en v'là, pour tirer après sur leur propre peuple ou pour tirer sur le peuple du pays d'à côté. C'est plus intelligent d'essayer de lutter sur ce phénomène-là avant que d'attendre que ça se passe et de faire des grandes déclarations absolument justifiées, mais malheureusement après coup, sur les crimes qui ont été commis. Donc voilà ce que dit Amnesty. Plusieurs actes d'Israël peuvent probablement s'apparenter à des crimes de guerre. Des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza ont protesté lundi à la frontière avec l'État hébreu contre l'inauguration, le même jour, à Jérusalem, de l'ambassade américaine en Israël. Plus de 50 manifestants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Le vice-président d'Amnesty International France a réagi sur France Info. Voilà donc ce qu'il dit. Très clairement, il y a une nouvelle fois un usage excessif de la force de la part de l'armée israélienne à qui on donne des ordres illégaux consistant à tirer sur des manifestants qui sont non armés. Il peut certes y avoir des manifestants violents, mais toutes les images qui nous parviennent, toutes les informations que nous avons et que le monde entier peut voir, montrent que ces manifestants ne représentent pas une menace imminente et directe pour la sécurité des forces armées israéliennes qui sont protégées et armées et qui tirent sur ces foules avec des balles réelles. Lorsque des personnes s'éloignent en courant et qu'on leur tire dans le dos, ce n'est pas une menace imminente. Selon Francis Perrin, donc le vice-président, cette assimilation... Entre parenthèses, assimilation, c'est la déclaration de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui assimile chaque manifestant à un représentant du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël. Donc cette assimilation permet aux autorités israéliennes de se dédouaner complètement de toutes les graves violations des droits humains commises ce lundi et depuis des semaines. Plusieurs de ces violations peuvent probablement s'apparenter à des crimes de guerre au regard des conventions de Genève. Le droit international est très clair. Il y a le concept de légitime défense. On ne peut utiliser des armes de guerre et de balles réelles pour tirer sur des personnes que s'il y a une menace directe et imminente pour les policiers et militaires impliqués ou en vue de protéger d'autres personnes. Lorsque des personnes sont à plusieurs centaines de mètres d'une frontière, ce n'est pas une menace imminente. Lorsque des personnes agitent des drapeaux palestiniens et qu'on leur tire dessus, ce n'est pas une menace imminente. Lorsque des personnes s'éloignent en courant et qu'on leur tire dans le dos, ce n'est pas une menace imminente. Donc clairement, il y a une nouvelle fois de la part d'Israël, violation des normes internationales les plus élémentaires. Voilà donc cette déclaration d'Amnesty France. Et donc, comme je vous disais, ça m'a fait penser à mettre cette déclaration en lien avec une action qui est actuellement sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, hein, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, de toute façon, pour la faire, il faut aller sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Et c'est une action qui vise à demander à ce que la France rende des comptes pour les ventes d'armes qu'elle continue à faire à l'Arabie Saoudite. Pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, ils savent que la France a signé en décembre 2015, si j'ai bonne mémoire, le traité sur le commerce des armes, qui stipule que normalement, un État signataire à ce traité n'a plus le droit de vendre des armes à des gouvernements qui vont utiliser ces armes contre sa propre population ou contre des populations civiles avoisinantes. Or, l'Arabie Saoudite, à qui la France continue à vendre des armes, et c'est sous le coût de, enfin, le coût de ces armes, enfin, le budget de ces armes représente quelques milliards d'euros par an. Donc, on conçoit bien que pour la France, c'est un bon client. Donc, continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, qui servent à l'Arabie Saoudite pour bombarder les populations civiles au Yémen. Puisqu'il y a la guerre entre, enfin une guerre larvée entre le gouvernement du Yémen et les autorités d'Arabie Saoudite et d'autres pays. Donc on demande à ce que la France respecte sa signature et donc suspende ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Et que pour ce faire, il y a une commission d'enquête parlementaire qui se met en place. Parce que pour l'instant, même si la France a signé le traité, les ventes d'armes sont... Et comme elle a signé le traité, la France est tenue de faire un compte-rendu annuel des ventes d'armes qu'elle a réalisées. On s'est aperçu que les comptes-rendus faits par les autorités françaises sont tout à fait incomplets et ne permettent pas de se faire une idée précise de ce que la France a réellement vendu.
Non, parce que je crois qu'il y a des armes qui disparaissent en plus.
Oui, en plus, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, c'est pas spécifique à la France, on avait dit aussi à l'émission, les Anglais faisaient pareil, enfin, etc. On rappelle que la France doit être, le quatrième ou le cinquième vendeur d'armes au monde. Ouais, on n'a pas de quoi être fier. Donc voilà ce que dit, je vais vous lire rapidement ce que c'est que cette action d'Amnesty. Donc c'est vente d'armes françaises, soutenez l'enquête parlementaire. Et ça commence comme ça. C'est la rentrée parlementaire. Vous avez 15 jours pour demander, donc jusqu'à la fin du mois de mai, pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises aux pays engagés dans le conflit au Yémen. La France vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, alors que ces pays participent à l'offensive meurtrière en cours au Yémen et qu'il existe un risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Le 20 mars dernier, un cabinet d'avocats que nous avions mandaté a publié une étude juridique mettant en cause la légalité des ventes d'armes de la France à la coalition saoudienne. C'est dans ce contexte que le député La République En Marche, qui s'appelle Sébastien Nadeau, soutenu par une trentaine d'autres députés, demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises aux acteurs du conflit au Yémen. Pour que sa demande aboutisse et qu'une enquête soit enfin lancée, votre mobilisation est essentielle. Il faut donc interpeller la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Madame Marielle de Sarnez. Qui décidera s'il y aura ou non une ouverture d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Il existe un risque, encore une fois, que ces armes soient utilisées au Yémen. Alors, il faut envoyer un tweet. On n'a que 15 jours pour agir, il faut envoyer un titre. Donc il faut effectivement avoir un compte.
Tweeter.
Il faut avoir un compte sur Twitter. On rappelle qu'un compte sur Twitter, pour l'ouvrir, c'est gratuit.
Ça, c'est sympa à faire.
Ça prend 2 minutes. Après, on s'en sert ou on s'en sert pas, mais au moins, on peut s'en servir pour envoyer des tweets. À Madame Marielle de Sarnez, ce ne sera pas inutile. Donc cette trentaine de députés qui se sont déjà engagés pour soutenir la demande de création, il faut les soutenir. Alors s'ensuit, je ne vais pas vous la lire, une liste de 30 noms effectivement de gens à qui il faut aussi tweeter pour leur dire qu'on les encourage à faire cette démarche-là et qu'on a contacté Madame la députée Marielle de Sarnez.
Est-ce qu'il y aurait notre député ?
Non, j'ai regardé, aucun des députés de l'heure n'y figure. Pour l'instant.
Peut-être
que ça va changer, voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous citer l'action. Donc, et le communiqué se termine de la façon suivante. Le manque de transparence de la France ne permet pas aujourd'hui de s'assurer qu'elle respecte ses engagements internationaux. C'est quand même formidable. On signe des traités, on est très fiers de les signer parce que ça va dans le sens du respect des droits humains. Et après, on ne répond pas aux critères pour voir si ces traités sont respectés. Le Parlement n'exerce aucun contrôle sur les ventes d'armes autorisées par le pouvoir exécutif. C'est ce que nous voulons changer. Notre exigence vis-à-vis de la France doit être d'autant plus forte qu'elle est la troisième plus important exportateur d'armes au monde et est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Donc allez sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, faites ce tweet auprès de Madame Marielle de Sarnez pour effectivement mettre les autorités françaises devant leurs responsabilités et qu'ils arrêtent ces ventes d'armes qui malheureusement finissent, entre autres, sont utilisées contre la population civile
au Yémen.
Voilà, je cherchais encore le nom. Et plus généralement, d'ailleurs, servent actuellement aussi, enfin c'est pas la France qui les vend, mais servent aussi aux autorités israéliennes pour tirer dans le dos des Palestiniens. Tout ça n'est pas acceptable, bien évidemment. Voilà. Après, on va changer complètement de sujet, après cette petite introduction. C'est... Il y avait Françoise qui voulait vous parler d'enfants.
Voilà. Donc, dans le bulletin enfants qui nous est arrivé là dernièrement, il y a quand même quelques bonnes nouvelles que je vais vous dire. Renaud Cobalt, votre mobilisation a porté ses fruits. Amnesty International avait publié un rapport intitulé « Time to Recharge » en novembre 2017. Ce rapport pointait du doigt un certain nombre d'industriels, dont Renault, sur la question sensible du contrôle de leur chaîne d'approvisionnement en cobalt. Après plusieurs échanges, une pétition et une rencontre fructueuse en janvier, Renault a, le 20 février 2018, rendu public ses engagements pour un approvisionnement en cobalt plus responsable. Nous pensons que ces mesures sont le fruit de notre interpellation et notre plaidoyer auprès de Renault. Merci pour votre mobilisation à nos côtés. La transparence dans la chaîne d'approvisionnement en cobalt est primordiale pour lutter contre les violations constatées en particulier dans les mines de la République démocratique du Congo, RDC. La démarche initiée par Renault va dans une direction positive, même si beaucoup reste encore à faire. Amnesty va poursuivre ses échanges avec le constructeur afin d'évaluer le chemin parcouru vers une plus grande responsabilité en matière de droits humains dans son approvisionnement en matières premières. Donc voilà, ça c'était pour le Renault en RDC.
J'ai lu d'ailleurs, je t'interromps une seconde, mais j'ai lu aussi à ce propos-là, enfin c'était pas directement sur le Renault et le cobalt, mais c'était les autorités de la République démocratique du Congo qui s'était enfin engagé assez récemment, il y a deux ou trois mois, j'avais lu ça, pour effectivement faire beaucoup plus de travail effectif de contrôle des conditions de travail dans les mines des terres rares et des métaux précieux à l'est de la RDC, qui servent pour nos téléphones portables, pour nos batteries, enfin, etc., etc. Et qui s'était engagé à faire enfin un travail qu'Amnesty demande depuis des années.
Oui, depuis des années.
Maintenant, reste à savoir si effectivement, là aussi, les déclarations d'intention vont être suivies.
Espérons que oui. Ensuite, je voulais vous parler quand même d'un espoir retrouvé pour des enfants non accompagnés en France qui rejoignent l'Angleterre. Après de longues démarches administratives, des enfants non accompagnés, afghans et kurdes, irakiens, réalisent leur rêve et sont transférés du nord de la France au Royaume-Uni. Les défis sont nombreux pour les associations locales et l'équipe en France du HCR qui aide les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Les centres d'accueil sont saturés et les délais d'attente durant lesquels des mineurs ne sont pas pris en charge sont importants. Il n'y a rien de pire que de voir des mineurs se mettre en danger alors qu'ils pourraient retrouver un membre de leur famille légalement, dit une associée de protection du HCR. Elle a identifié 27 mineurs et les a redirigés vers les structures adéquates. Dans le cadre paisible d'un parc de loisirs de l'Avesnois, ces 27 mineurs afghans et kurdes irakiens sont en abri d'urgence jusqu'à ce qu'ils soient intégrés au système de protection de l'enfance en France ou transférés en Angleterre, un rêve commun. Assis sur un lit, une casquette noire sur la tête, Aslan, âgé de 13 ans, confie qu'il n'aurait jamais soupçonné que son voyage d'Afghanistan à la France serait aussi éprouvant. Il a laissé sa ville natale de Kaboul pour marcher jusqu'au Pakistan, traverser l'Iran, puis arriver à Paris. Aslan ne sait ni lire ni écrire. et c'est pourtant Facebook qui lui permet de retrouver son frère, Jawad, réfugié en Angleterre, et d'entamer une procédure de réunification familiale avec l'aide du HCR. Après des échanges de photos pour confirmer leur identité, ils se sont appelés au téléphone et se sont mis à pleurer de joie. Jawad est un modèle pour Aslan, il fait des études de langue dans un collège à Londres. Le moment du départ arrivé, les adolescents se mettent en rond sur le parking du centre et entament une danse traditionnelle afghane qui signifie « ensemble » pour saluer les quatre jeunes qui vont en Angleterre. Ils ont peu de bagages mais plein d'espoir. La vie a joué un drôle de tour à Aslan. Il se dirige vers la gare de Lille où quelques mois auparavant, il dormait pour se protéger du froid. Alors qu'il s'apprête à passer avec l'Eurostar, le jeune Afghan se remémore les nombreuses fois où il a risqué sa vie pour rejoindre l'Angleterre à pied sous ce même tunnel. Donc, heureusement que quelques bonnes nouvelles arrivent. Maintenant, j'aurais voulu vous parler de la jeune femme.
Il y a Françoise qui recherche la page dans la publication d'Amnesty.
Et qu'on l'appelle la Malala du Yémen. Depuis qu'elle est toute petite, on répète à Amdoula Hassan Saad qu'elle vaut 10 hommes. À 17 ans, Admat, comme ses amis l'appellent, est la première ministre d'un gouvernement unique au monde, le Conseil des enfants, à l'initiative du Congrès général du peuple. Les 35 membres qui le composent sont tous mineurs et siègent au Parlement aux côtés de leurs homologues adultes. Établi en 2013, il est censé offrir une voix officielle à la jeunesse yéménite, presque la moitié de la population, tout en prenant une part active dans les affaires nationales. Chaque ministère a son équivalent juvénile. Un jour de novembre, elle a pris place d'autorité à la droite de Saleh Ben Souda, légende vivante du Yémen, qui a survécu à une dizaine de raids aériens et contrôle l'une des tribus les plus redoutables de la région de Marib. Auprès de cet important chef de guerre, la jeune fille énumère les crimes dont lui et ses congénères se rendent coupables, à commencer par le recrutement d'enfants soldats. L'UNICEF a recensé plus de 2000 mineurs en 2017 dans les rangs des milices houthis, qui n'hésite pas à utiliser des gamins âgés d'une quinzaine d'années pour compenser les lourdes pertes essuyées par leurs troupes. Les candidats ne manquent pas, poussés par la pauvreté, leur patriotisme exalté par les bombes saoudiennes et le désœuvrement lié à la fermeture de la plupart des établissements scolaires. Al-Matoula a déjà ramené dans leur famille une vingtaine de jeunes, n'hésitant pas à aller les chercher sur le front. Mais leur démobilisation est souvent compliquée, car la communauté est prompte à les accuser de trahison. Mais cette jeune fille est persuadée, pour obtenir la paix, il faut d'abord faire la guerre. Elle dit haut et fort le mal qu'elle pense des Houthis, les chiites qui règnent sur le pays. À Saada, ville proche de la frontière saoudienne, contrôlée par les Houthis, les femmes vivent cloîtrées dans les maisons et les fillettes portent la burqa dès l'âge de 10 ans dans les écoles. Pour Al-Matoula, Saada...
Tu vas y arriver.
Saada est le miroir de ce qui attend le reste du pays si les outils qui contrôlent plus de la moitié du gouvernement rebelle pour modifier le programme scolaire en consacrant une large part à l'enseignement religieux et au culte du djihad. La jeune fille utilise les médias sociaux pour alerter autant que pour se protéger de ses ennemis. Ses camarades confient qu'elle reçoit des menaces de mort quotidiennes. L'an dernier, elle a échappé de justesse à une attaque à l'acide. Aussi veille-t-elle à être irréprochable et à ne rater sous aucun prétexte l'une des saintes prières quotidiennes. Dans cette société patriarcale, elle respecte les codes et s'adresse avec déférence à son père, professeur à l'université de Saada. Cet homme éduqué tient à offrir à sa seule fille la liberté que sa femme n'a pas connue, cette dernière ayant été mariée à 15 ans. Les mariages précoces sont une plaie ancienne au Yémen. En 2008, des pourparlers avaient été engagés pour établir l'âge minimal du mariage à 18 ans, après le divorce réclamé et obtenu pour la petite Noujoud à l'âge de 10 ans. Mais avec la guerre, la tradition des mariages précoces est revenue, devenant un des moyens de subsistance pour les populations déplacées, pressées de toucher l'argent de la dot. Selon l'UNICEF, le nombre de mariages de mineurs a doublé depuis le début du conflit et des dizaines de petites filles meurent en couche. Lors d'une entrevue avec le président du Parlement, Amatullah lui a arraché la promesse de faire voter une loi pour criminaliser ces unions. Voilà.
Bien, eh bien, on parlait justement du Yémen tout à l'heure avec les ventes d'armes. Effectivement, bon, c'est un pays où il se passe beaucoup de choses assez compliquées, c'est clair. Mais au moins, on pourrait agir pour que ce pays, en fait, ne subisse plus la guerre de cette façon-là. Et puisse effectivement retrouver une vie sociale un peu plus calme. Ce serait au moins un minimum. Il y avait Renan qui avait quelques...
Oh, j'ai une petite bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, c'est ça ?
Ouais, par rapport à l'abolition de la peine de mort, qui est à nouveau pas. Nous avons recensé 993 exécutions en 2017, soit 4% de moins qu'en 2016 et 39% de moins qu'en 2015. Un pas vers l'abolition totale de cette pratique cruelle et barbare. Pour 2017, nous avons enregistré au moins 2591 condamnations à mort dans 53 pays, ce qui représente une baisse notable par rapport au chiffre record de 3117 enregistré en 2016. L'Afrique subsaharienne a réalisé d'importants progrès en vue de l'abolition de la peine de mort avec une diminution significative du nombre de sentences capitales recensées dans toute la région. D'importantes mesures ont également été prises pour restreindre le recours à la peine de mort dans des pays qui sont pourtant de fervents défenseurs de ce châtiment. Et malgré cette petite avancée, le combat continue comme contre la peine de mort dans le monde. Donc ça prouve que ça a un petit peu baissé, quoi, 4% par rapport à...
Oui,
c'est une bonne nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle, mais bon, c'est bon.
Bah, la bonne nouvelle, ce serait que la peine de mort soit définitivement abolie partout dans le monde. C'est
oui,
clair.
Puis en plus, il y a tellement de conflits qu'ils assassinent, alors voilà. Ils n'ont pas besoin de passer par les procès. Donc.
Bah, voilà, et surtout, c'est pas entièrement faux.
Et surtout qu'en Chine, on ne sait jamais
les Chines ne donnent jamais ces chiffres.
Parce que là, quand on voit les chiffres sur une année, c'est peut-être rien que les chiffres.
Enfin, il y a aussi un autre chiffre donc, qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'à la fin des années 70, on dit qu'il y avait moins de 40 pays dans le monde qui avaient aboli la peine de mort. On en est maintenant à 100, 110, 120, je ne sais plus exactement.
Tout à fait.
Donc ça, c'est quand même positif, c'est sûr. On s'écoute un peu de musique.
On fait feu de tout bois, les nuits où on en trouve. Je dors sous ton journal pour le froid et la cour. Je m'en mal au petit matin, je m'invente des trucs de grand. Mentir c'est pas mon truc, je me coupe en brasant. Au bout y'a tout, au fond y'a rien. Y'a que le diable en hiver qui peut faire le malin. Au bout y'a tout, ouais. Au fond y'a rien. Y'a que le diable en hiver qui peut faire le malin. J'fais du charme au docker, du stop à l'avenir. Vous qui sortez couvert, une petite pièce messire. Je retrouve mes associés dans la hutte en carton. La pluie sur le pavé, c'est férié, on se fait le pont. Au bout, y'a tout. Au fond, y'a rien. Y'a que le diable en hiver qui peut faire le malin. Y'a tout, ouais. Au fond y'a rien. Y'a que le diable en hiver qui peut faire le malin. Oh, y'a que le diable en hiver qui peut faire le malin.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux pour la première émission mensuelle du mois de mai.
Et que venons-nous d'écouter,
Didier ? On vient d'écouter quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, et qu'on aime bien, Renan et moi.
Tout à
c'est
fait.
Paul Personne, et c'est une chanson qui s'appelait « Le diable en hiver ». Qui n'est pas récente, mais qui est toujours... c'est bien. Le texte aussi, par rapport... Ouais, bref. Vous réécouterez sur le podcast, vous verrez. Non, mais c'est bien, mais il faut pas parler à la place des gens. Voilà. Dans la deuxième partie de l'émission qu'on va entamer maintenant, je pense qu'il y a Claire-Lise qui a beaucoup de choses à vous dire sur les réfugiés et les migrants, mais pas que.
Oui. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler d'un anniversaire. Alors, forcément, quand on parle d'anniversaire et quand on parle de président de la République, il y a une image qui vient en tête, mais je ne vais pas vous faire poum poum pidou, je vais plutôt vous faire la fête à Macron. Voilà. Donc, un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a un an, le président Emmanuel Macron accédait à la présidence de la République. En tant que candidat, il avait pris auprès de nous certains engagements en faveur des droits humains, concernant notamment la lutte antiterroriste, le droit à la vie privée, la protection des réfugiés et des défenseurs des droits humains. Après un an de mandat, la situation reste préoccupante sur la majorité de ces sujets. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017, nous avions lancé une campagne pour demander aux candidats de s'engager publiquement à garantir et à renforcer le respect des droits humains pour tous. Emmanuel Macron, alors candidat, s'était engagé sur la quasi-totalité de nos demandes. Cependant, un an après son entrée en fonction, la protection des droits humains continue de faire défaut sur de nombreux sujets. Le nouveau président doit traduire ses engagements en actes. Parmi ceux qui doivent et peuvent faire l'objet de mesures rapides figurent les sujets suivants. Suspendre la vente d'armes aux pays violant les droits humains, on vient d'en parler. Prendre l'engagement d'accueillir davantage de réfugiés vulnérables bloqués dans des pays de transit.
Ça, c'est moins bien.
C'est moins bien. Renforcer la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits humains. Protéger les populations civiles dans les conflits, en particulier en promouvant la réforme du droit de veto au Conseil de sécurité en cas de crime de masse. Donc, on est dans un contexte de crise pour les droits humains. Une traduction en acte de ces engagements est d'autant plus importante que nous traversons une période dans laquelle des acteurs politiques, mais aussi économiques, s'attaquent à l'essence même des droits humains, les accusant de tous les maux. Comme l'ont tristement illustré les programmes et les discours de certains candidats au cours de cette campagne électorale. La protection des droits de tous, fondement de la dignité et de l'égalité des êtres humains, est indissociable du progrès social et de la défense des libertés individuelles. Le respect doit guider l'action que compte entreprendre le nouveau président de la République, garant des engagements internationaux de la France en matière des droits humains. Donc, le respect des droits des réfugiés et des migrants, le compte n'y est pas. En octobre 2017, la France a annoncé qu'elle accueillerait 10 000 réfugiés d'ici 2019. Une annonce qui se substitue aux promesses d'accueil déjà faites. Dans les faits, la France fait du surplace en matière d'accueil. On en parlait à la dernière émission, justement, sur le droit d'asile. On n'en accueille pas plus qu'avant. On en accueille même, on stagnerait même. Dans le même temps, la France continue de renvoyer, en violation du droit international, des personnes vers l'Afghanistan, où tout civil est en danger. Elle renvoie également des personnes vers l'Italie, depuis Menton, sans respecter les droits des mineurs et des demandeurs d'asile. Quant au projet de loi Asile-Immigration, en discussion, il met en danger les droits des réfugiés et des migrants. Après 6 prorogations successives sur 2 ans, l'état d'urgence a enfin été interrompu en novembre 2017. Mais c'est une fausse bonne nouvelle. En effet, avec la loi de sécurité intérieure et de renforcement de la lutte contre le terrorisme, de nombreuses mesures propres à l'état d'urgence, par nature exceptionnelles, sont désormais intégrées dans le droit commun et font partie des mesures ordinaires à disposition des autorités. Cette loi confirme en effet la mise à l'écart du juge au profit des autorités administratives. Sur la base de suspicions, sans preuves suffisamment tangibles, des perquisitions, des assignations sur un territoire et des fermetures de lieux de culte peuvent être décidées. Ces mesures peuvent conduire à des décisions disproportionnées ou arbitraires, sans voie de recours satisfaisante. C'est surtout la présomption d'innocence et le droit à une procédure équitable qui sont mises à mal. Et ensuite, la protection des défenseurs des droits humains devrait être une priorité pour la France, et Emmanuel Macron s'était exprimé dans ce sens. Depuis son élection, il a déjà rencontré des dirigeants de pays où les défenseurs des droits humains font l'objet de persécutions graves. Égypte, Russie, Israël, Turquie, Chine, Arabie Saoudite. Dans certains cas, le président et le corps diplomatique ont fait preuve de volontarisme, en particulier lors de la rencontre avec M. Poutine, puis dans une moindre mesure avec celle de M. Erdogan. Mais pour d'autres États, la position adoptée s'est éloignée de la défense des droits de l'homme. M. Macron a ainsi déclaré, lors de sa rencontre avec le président d'Égypte, M. Al-Sini, qu'il se refusait de lui donner des leçons sur la question des droits de l'homme, insistant sur le combat commun des deux pays en matière de lutte contre le terrorisme. Il est difficile de voir se dessiner une ligne claire et une réelle cohérence sur ce sujet. Malheureusement, il semble que notamment lorsque les intérêts commerciaux de la France sont en jeu, celle-ci mette ses valeurs en sourdine, malgré les déclarations d'intention. En témoigne les ventes d'armes de la France, plus spécifiquement vers l'Égypte, où la coalition menée par l'Arabie Saoudite. En 2017, les transferts d'armes de la France se sont poursuivis vers ces deux lieux, vers ces deux entités. En Égypte, la répression des populations civiles est avérée, les armes étant notamment utilisées pour disperser violemment les manifestations. Quant à l'Arabie Saoudite, on vient d'en parler, aux Émirats Arabes Unis, ils sont, eux, engagés au Yémen, où ils ont commis des violations graves du droit international humanitaire. Nous sommes également très inquiets des poursuites engagées et des condamnations pour délit de solidarité à l'encontre de militants qui n'ont fait que pallier les défaillances de la France en matière du droit d'asile et d'accueil des étrangers. Le procès de notre militante Martine Landry l'illustre bien. À 73 ans, elle est poursuivie pour avoir voulu faire respecter les droits de deux mineurs isolés. Elle les a accueillis côté français à la frontière avec l'Italie. Elle les a accompagnés dans leur démarche alors qu'ils avaient été expulsés illégalement par les autorités françaises. De même, les associations qui viennent en aide aux migrants font l'objet de mesures et de propos d'intimidation inacceptables. Interdiction de distribuer des repas, destruction du matériel. À Calais, M. Gérard Collomb leur a demandé d'aller exercer leur talent ailleurs. Malgré nos demandes répétées, le gouvernement n'a pas saisi l'occasion du projet de loi Asile et Immigration pour supprimer totalement le délit de solidarité. Alors, monsieur Macron, je pense qu'il y a encore du travail pour remettre la France en marche, parce que là, pour l'instant, on est plutôt en marche arrière.
La France en marche. Voilà. Quelle note tu voudrais lui donner, Clarlise, à monsieur Macron par rapport à ce qu'il avait promis à Amnesty et ce qu'il a fait depuis un an ? C'est une question piège.
Je vais me mettre en colère.
Bon, c'est pas grave. D'accord. Bah oui, effectivement, ce que tu as dit rejoignait aussi ce qu'on avait dit au début de l'émission par rapport aux ventes d'armes. Donc, on rappelle à M. Macron qu'il y a une responsable de la commission des affaires étrangères du Parlement qui voudrait bien pouvoir mettre en place une commission d'enquête, M. Macron, pour enquêter sur ce que votre gouvernement a accepté, M. Macron. Voilà. Après, on avait dit qu'on parlait des réfugiés et oui. Des migrants. Mais juste avant, on avait un petit son à vous faire écouter. En guise de chapeau par rapport à la séquence, si on peut dire. C'est un enregistrement qui a été fait lundi 7 mai, donc lundi dernier, pas hier, mais il y a une semaine, à Caen. À Caen, il y avait le bus d'Amnesty International pour l'accueil des réfugiés. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, le bus, il était à Évreux pendant 2 jours au mois de février dernier, les 16 et le 17 février. Et le 17, on était à la salle des musiques actuelles où on a fait une journée de projection débat avec la présence du bus, etc. Et avec pas mal de succès et beaucoup d'écho. Voilà, tant mieux. Et donc, ce même bus a continué à parcourir la France. Donc, il était depuis cette semaine, enfin ces derniers jours, en Basse-Normandie, dont le 7 à Caen. Et à Caen, il y a France Info qui est venu interviewer. France Info, la radio, qui est venu interviewer les militants d'Amnesty qui étaient là avec le bus et qui fait parler les passants et qui fait parler aussi les responsables du groupe. Ça dure 1 minute et quelques, c'est très court, mais c'est très intéressant.
Il existe des milliers de raisons pour accueillir des réfugiés. Quelle est la vôtre ? Vous voulez bien l'écrire ?
Pas facile de sensibiliser les gens dans la rue et peut-être encore moins sur la question des réfugiés.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Pas grand-chose, désolé.
Mais il en faut plus pour décourager un membre d'Amnesty International.
On n'est pas des réfugiés. Merci.
je la saisis dans son activité, je l'arrête dans la rue, la personne n'est pas obligée de bien le prendre, c'est sa liberté. Mais sur 10 refus, quand il y en a un qui accepte, ça valait le coup de venir.
Et il y en a qui s'arrêtent, des citoyens lambda, pas forcément politisés, mais des êtres humains qui trouvent naturellement sur des milliers au moins une bonne raison de tendre la main à d'autres êtres humains qui subissent toutes sortes de violences, victimes de guerres, de génocides, de dictatures partout dans le monde, et qui n'ont plus d'autre issue que de fuir leur pays.
On a quand même vu des images choquantes, les guerres chimiques, les choses comme ça. Enfin, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas se dire, nous, dans notre petit confort, on ferme les portes et puis on se barricade.
C'est des humains. C'est horrible ce qui se passe. Ouais. Donc oui, c'est important. Ouais. J'oblige personne, mais moi, je trouve ça très important. Ouais.
On cherche à démontrer en fait, aux autorités françaises que la population n'a pas forcément de crainte à l'accueil des réfugiés. Elle est même déjà engagée là-dedans. Et nous, avec ce bus, avec cette action qu'on porte là depuis un an, on essaye de démontrer aux autorités qu'il faut faire plus et que la population française encourage le gouvernement à le faire.
Le bus I Welcome a reçu 5000 raisons. 500 d'entre elles seront envoyées à l'Élysée pour tenter encore d'infléchir le projet de loi Asile et Immigration en discussion au Parlement.
Voilà, donc c'était nos amis d'Amnesty Camp la semaine dernière. Et puis il y a Claire Lise qui voulait vous parler du même sujet, mais là, sous l'aspect de ce qui se passe ici à Évreux.
Alors, la dernière fois, je pense que je vous avais déjà un petit peu parlé de l'action qui avait été faite par un collectif. Hein. Donc le collectif Un Toit Sous la Main avec Réseau d'Éducation Sans Frontières, avec le collectif Étrangers Français pour l'égalité des droits et avec la Ligue des droits de l'homme. On avait occupé la maison de quartier donc le 23 avril au soir pour protéger 14 enfants et 13 adultes à la rue et exiger leur hébergement d'urgence. Donc on avait occupé la maison de quartier de la Madeleine de façon illégale et on avait été délogé par la police municipale. Donc il me semble que je vous avais raconté un petit peu ça parce que en fait on avait voulu mettre l'accent sur le fait que des demandeurs d'asile enregistrés en préfecture, qui sont des demandeurs d'asile, se retrouvaient absolument sans place. Et on prend au mot Monsieur le Président Macron, qui avait dit que en matière d'asile, effectivement, il voulait que les demandeurs d'asile soient hébergés dignement.
Qu'il n'y ait plus personne dans la rue le 31 décembre 2017, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, on lui a fait remarquer que même à Évreux, dans notre bonne petite ville d'Évreux, il y a des gens qui sont à la rue. Donc, il y a des demandeurs d'asile, il y a des gens qui sont sans papier, donc qui ne sont pas régularisés parce qu'ils se sont pris une obligation à quitter le territoire français, par exemple, ou parce que leur situation est compliquée et qu'ils n'arrivent pas à résoudre leur régularisation. Et puis, il y a aussi des gens qui, au niveau social, sont en rupture ou n'ont plus de logement et qui sont ce qu'on appelle des sans domicile fixe. Toutes ces personnes sont amenées, quand elles n'ont pas d'hébergement, à appeler le 115 pour essayer d'avoir un logement. Et le 115 répond régulièrement qu'il n'y a pas de place. Donc on avait voulu mettre un petit peu le nez, alerter la presse par rapport à ce qui se passait, et notamment aux demandeurs d'asile, puisque normalement, eux doivent être hébergés. C'était un engagement de l'État. Donc, il y avait eu un article de journal qui était paru après qu'on en ait parlé à la radio.
Oui.
Et puis, il y avait eu aussi une petite réponse du préfet. Donc, je vais déjà vous lire le petit bout du préfet. Puis après, je vais vous lire aussi un communiqué de presse en réponse. Alors, le préfet de l'Eure a réagi peu de temps après que le réseau d'éducation sans frontières ait alerté la préfecture sur la situation des 7 familles, dont l'hébergement n'aurait pas été pris en charge par le 115. Il précise dans un inventaire qu'une famille était connue des services et n'avait jamais fait appel au 115. Une famille arrivée en France en avril 2018, qui avait été dirigée vers France Terre d'Asile le 20 avril, ne s'est pas présentée. Une famille arrivée en France en avril 2018 devait déposer son dossier de demande d'asile le 25 avril prochain en préfecture de Seine-Maritime, donc elle a vocation à être hébergée. Donc si elle est à rue, c'est pas grave, il faut qu'elle attende, bien sûr, une semaine après d'être enregistrée.
Bah oui, ça tombe sous le sens.
Une famille déboutée du droit d'asile, dont la mère a déposé en mars une demande de titre de séjour malade, dossier en cours d'instruction, mais enfin, elle est quand même sans hébergement. Mais voilà. Et une famille dont l'époux souhaitait déposer une demande de titre de séjour médical a vu sa demande ajournée en raison de la production de faux documents. C'est aussi la mode à la préfecture surtout à la préfecture d'Évreux, de déclarer faux des actes de naissance, alors que seul le pays qui a émis un acte d'état civil peut dire que ce document est faux. Donc c'est illégal de dire que ces papiers-là sont faux. Et une famille était jusqu'à ce jour hébergée par son réseau de connaissances. Donc enfin, alors bref, de toute façon, il répondait que bah il y avait toujours des bonnes raisons pour que ces familles-là soient à la rue. Donc le réseau, enfin un toit sous la main, entre autres, et les personnes qui participaient à ce collectif ont rédigé un communiqué de presse. Donc l'évacuation de la maison de quartier de la Madeleine le lundi 23 avril, des militants des droits humains que nous sommes, qui tentions d'obtenir la mise à l'abri de familles, avaient vocation à être hébergés par les services de l'État et s'est faite sous les contraintes. Force n'est pas restée à la loi. Elle est restée à la seule brutalité d'agents non assermentés pour effectuer eux-mêmes des tâches de police. L'élu et le fonctionnaire territorial chargé de la sécurité, auquel s'est joint le directeur de cabinet du maire d'Évreux et les membres du SIAP, ont donc enfreint la loi et précipité dans l'insécurité des familles qu'ils avaient vocation à protéger. Ces familles, en situation de grande fragilité, mais ayant toutes des démarches administratives dûment enregistrées par les services de la préfecture, ont été soumises à une accumulation de décisions institutionnelles, arbitraires, que nous considérons relever de la maltraitance. Face à cette réaction autoritaire, notre attitude est restée toute républicaine, celle de militants se refusant à toute violence et exigeant que ne soient pas bafoués nos principes démocratiques et humanistes, ni en matière de maintien de l'ordre, ni en matière d'accueil et d'accompagnement des populations les plus précaires. Une semaine après les faits, toutes les familles immédiatement hébergeables ne le sont toujours pas. Nos compétences de citoyens nous amènent à exiger que chaque instance ne se dédouane pas de ses responsabilités. Les services de l'État disposent de moyens financiers pour subvenir aux besoins en hébergement. Les collectivités disposent bien souvent de locaux vacants et immédiatement occupables. Et nous-mêmes disposons de notre force de réaction et d'interpellation des citoyens pour meubler et équiper ces locaux très rapidement. Il n'y a pas de restrictions juridiques qui ne résistent à la volonté politique. Nous en appelons donc à la tenue d'une table ronde afin que soient aplanies collectivement toutes les difficultés qui font obstacle à l'hébergement inconditionnel des personnes en situation de précarité. Il n'y a pas d'état de droit sans vigilance et sans exigence citoyenne. L'absence de convergence entre les citoyens, les élus et le représentant de l'État ne pourrait que contrevenir à la solidité de nos institutions, celles qui nous permettent de vivre ensemble et de faire société. Donc ça, c'était le communiqué de presse qui avait été fait donc, au nom de Un Toit Sous la Main, du CFED Asti, de RSF et de la Ligue des Droits de l'Homme. Et on est quand même plus de 15 jours après. Je me suis encore énervée vendredi dernier parce que,
c'est mauvais pour ton cœur, Pierre.
Il y a toujours des personnes à la rue et qui sont demandeurs d'asile. Donc avec ma petite plume, j'ai écrit, et cette fois-ci, j'ai écrit à France Terre d'Asile qui ne répondait pas au téléphone, ni lundi, ni mercredi, ni vendredi.
Ce sont toujours les familles avec les deux bébés ?
Il y en a d'autres. Alors, parce que les deux familles, justement, la famille de Kosovar et la famille originaire de Brazzaville, à un moment donné, on est aussi dans la maltraitance. Enfin, ils répondent à nos exigences de leur donner un logement. Mais ils trouvent des logements bien éloignés, c'est-à-dire le Formule 1 de Val-de-Reuil. Vous connaissez le Formule 1 de Val-de-Reuil ? Eh bien, on les envoie là-bas alors qu'ils n'ont pas d'argent et ils n'ont rien à manger. Et ils sont loin des associations qui peuvent venir les aider. Donc, ils se sont retrouvés là-bas, nos deux familles. Oh. Et il a fallu se relayer pour aller leur porter à manger, entre autres. Et donc, moi, vendredi, ça m'a énervée parce qu'il y avait encore des demandeurs d'asile. Donc, je ne vais pas vous nommer les noms, mais enregistré depuis longtemps en procédure normale à la préfecture de Rouen, donc en procédure demandeur d'asile normale, c'est-à-dire que, parce que quand ils sont en procédure accélérée, ils n'ont pas droit aux conditions matérielles d'accueil. Et quand ils sont en procédure Dublin non plus. Mais quand ils sont en procédure normale, normalement, de plein droit, ils ont droit à... Ça déclenche l'allocation demandeur d'asile et ça déclenche normalement une place en CADA. Sauf que dans l'heure, il n'y a pas assez de place pour les héberger. Donc, il y en a plein. Déjà, ils attendent pendant 2-3 mois avant d'être enregistrés à la préfecture de Rouen. Donc, ils sont à la rue, on l'a déjà dit. Et après, eh ben en fait, alors pendant les grands froids, des fois ils sont hébergés dans les dispositifs de Parisos, les dispositifs grand froid et la Mala. Mais comme le 16 avril, la Mala elle avait fermé,
bah oui, c'est fini.
Toutes ces familles se sont retrouvées à la rue. Et là, vendredi, je me suis fâchée parce qu'il y avait encore au moins... bon, là, j'avais listé au moins 3 personnes en situation demandeur d'asile en procédure normale qui étaient toujours à la rue et sans hébergement. Et ils ne répondent pas, hein, ils font la sourde oreille. Les jeunes femmes, 2 jeunes femmes qui sont à la rue, sur la semaine là où il y avait des jours fériés, et ben en fait, quand c'est ouvert, vous savez, en semaine, quand c'est ouvert, les gens qui dorment à la rue, ils peuvent aller soit à accueil-service, soit à la passagère à la Madeleine pour manger, se laver, se restaurer un peu, être un peu au chaud et tout. Mais ça, c'est fermé pendant les week-ends et c'est fermé les jours fériés. Donc moi, dans mon courrier, là, ce que je décrivais, c'était que ces jeunes femmes, non seulement elles avaient passé les nuits à la rue, mais elles ne pouvaient même pas, avec les jours fériés, pouvoir aller se laver, pouvoir aller aux toilettes, enfin, vous imaginez. Et quand on parle, quand M. Macron a dit que le président de la République et son gouvernement clament qu'il faut accueillir dignement les demandeurs d'asile, moi, je leur demande où est la dignité de la République française lorsqu'elle laisse dormir dehors des personnes qui viennent chercher asile en France.
La dignité, elle est difficile à trouver dans ces conditions-là, c'est évident.
Et nous savons que la tâche est difficile et que les places d'accueil en CADA sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins des personnes demandeurs d'asile à Évreux. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle et se répète trop régulièrement. Toutefois, même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d'hébergement, l'État, en ne procurant pas d'offres concrètes dans le cadre des conditions minimales d'accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans abri, porte atteinte au droit à l'hébergement d'urgence. Donc, j'ai crié, je me suis énervée. Et bon, il y a un des messieurs là qui est hébergé à partir de ce soir. Mais les 2 jeunes femmes, je n'ai pas réussi à avoir de nouvelles.
Bien.
Et je vais prendre encore 2 minutes parce que ça m'énerve encore plus.
Vas-y, puis après on te coupe la parole.
Et on s'était occupé aussi au niveau du CFDAFSI d'une jeune femme qui s'appelle Devienne et qui a accouché au mois d'avril d'un petit garçon qui s'appelle Noah, le 2 avril. Donc, elle est en situation irrégulière. On est en train de l'aider dans ses démarches pour qu'elle ait des papiers. Et cette jeune femme a été hébergée à l'hôtel. Sauf qu'elle nous a contactés et nous a appelés au secours parce que le 27 avril, ils voulaient la mettre en dehors de l'hôtel. Elle et son bébé de 3 semaines. Voilà. Donc, l'humanité, la dignité... Enfin, voilà. Donc, il a fallu qu'on se bagarre. On est allé faire le siège de la DDCS le 27 avril pour obtenir que cette jeune femme reste à l'hôtel. D'abord jusqu'au 7 mai, puis jusqu'au 15 mai. Et aujourd'hui, il a fallu encore se rebagarrer pour obtenir qu'on puisse la garder encore à l'hôtel parce qu'ils voulaient la mettre dehors. Alors, ils ont une pratique. Hein. Ils envoient l'assistante sociale. Oui. Ils envoient l'assistante sociale de ISOS. Donc, cette dame n'est pas là pour rassurer les personnes qui risquent d'être mises dehors, puisque dès le vendredi, elle leur téléphone en leur disant « Ah, mais je vais passer lundi, mais de toute façon, vous allez devoir partir de l'hôtel. » Donc, on leur dit déjà dès le vendredi. Vous imaginez le week-end qu'a pu passer cette maman avec son bébé. Et effectivement, le lundi matin, la fameuse assistante sociale est passée, lui a dit « Non, mais demain, il faut sortir. » Il n'y a pas d'aide dans les démarches, il n'y a rien. Ce sont les associations de bénévoles qui aident cette jeune femme dans ses démarches administratives, qui vont à la DDCS, qui font le siège pour obtenir. Donc on a obtenu qu'elle puisse continuer à être hébergée pour une semaine, mais ils l'envoient au Formule 1 de Val-de-Reuil. Donc elle n'a pas d'argent, il va falloir se relayer pour aller lui porter à manger là-bas. Voilà, bien. Merci la DDCS de l'heure.
Encore une fois, heureusement que les citoyens et les associations se mobilisent et offrent des solutions à des gens qui n'en ont plus, effectivement. Et tout l'honneur nous revient à nous, aux défenseurs des droits humains, c'est clair. Heureusement qu'on n'attend pas sur l'État pour boucher les trous, parce que sinon, effectivement, on n'en sortirait plus. Et il y aurait encore bien plus que ça de gens avec des enfants, de jeunes femmes à la rue, dans des conditions sordides. On va changer un petit peu notre planning jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on va pas pouvoir faire tout. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Un petit peu de musique.
Tadou, 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 tadou. petites fourchettes dans les petites annonces du soir.
Voilà, c'était. On continue notre hommage à Jacques Higelin. On est tous des fans de Jacques Higelin à Bistivre. Donc, c'était une reprise d'Aujourd'hui la crise, un vieux morceau, mais qu'il a repris il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et ben, c'était bien adapté, je crois, à la situation dont on vient de parler, puisqu'il dit dans le refrain « C'est dur aujourd'hui peut-être, demain ce sera vachement mieux ». Donc on encourage tous les auditeurs et les auditrices à venir nous soutenir encore plus que d'habitude pour que demain ça soit vachement mieux. On avait dit qu'on allait vous parler de d'autres sujets dont on n'aura pas le temps de vous parler, mais ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. On va quand même vous faire un petit appel à l'action, on ne l'avait pas fait la dernière fois. On va vous demander d'intervenir, on vous rappelle que pour ce faire, vous nous envoyez votre mail sur notre boîte mail à nous, c'est-à-dire amnesty.evreux@gmail.com, amnesty.evreux@gmail.com, et vous nous dites que vous voulez faire l'action urgente, oui, concernant des prisonniers d'opinion en Iran. Alors, je vous résume très vite la situation. Ce sont 4 personnes. Je vais vous économiser les noms parce que ce sont des noms iraniens. Et comme c'est Ronan qui est spécialisé pour dire les noms étrangers, je ne vais pas lui laisser. Donc, ce sont 4 personnes, 2 couples, 2 hommes et 2 femmes, qui sont en prison, sauf l'un d'entre eux qui a été libéré, mais qui risque d'y retourner depuis l'an dernier. Tout ça parce qu'ils s'opposent à l'application de la peine de mort en Iran auprès des autorités iraniennes. Donc, ils sont poursuivis pour menace à la sécurité nationale et offense à l'islam. Voilà. Quand on s'oppose à la peine de mort, on fait des offenses à l'islam. Il y a des choses, parfois, que j'ai un peu de mal à comprendre. Donc, voilà. Donc, ils sont en prison. Certains font la grève de la faim depuis des mois. Donc, on est assez inquiet pour eux. Et on demande, bien évidemment, que ces 4 personnes... Alors, je vais juste quand même dire les prénoms, ce sera un peu plus parlant. Elles s'appellent Athéna, Omi, Arash... et Gold Rush. Voilà. Et on demande bien évidemment que ces 4 personnes, donc, ont été adaptées par Amnesty, soient libérées immédiatement parce que, et sans condition, parce qu'ils sont effectivement emprisonnés uniquement pour un délit qui n'existe pas, c'est-à-dire simplement d'avoir manifesté leur opinion. Donc, si vous êtes comme nous et révoltés par cette situation, il y a une lettre préparée, évidemment, qu'on vous enverra, que vous pouvez modifier ou compléter, mais une lettre toute faite. Vous nous envoyez vos coordonnées à amnesty.evreux@gmail.com. Ça se passe en Iran en ce moment, et l'Iran, on en parle aussi aux actualités, mais là c'est pour tout à fait autre chose. Voilà. Et il y a Ronan qui voulait peut-être vous dire aussi, je sais plus quoi, dis donc.
Ah, une petite bonne nouvelle, et comme tu viens de si bien le dire, j'ai deux noms pas faciles à
t'as
dire.
T'as deux noms compliqués. Ah, t'as pas de chance, à chaque fois, ça tombe sur
en
toi.
En Éthiopie, alors, Seyoun Teshom et Tai Dendi.
T'en es bien sorti.
C'est pas mal. Ont été libérés sans inculpation de la prison de Makelawi le 16 avril. Ces deux hommes avaient été arrêtés le 8 et 15 mars, respectivement. Donc voilà, une petite bonne nouvelle.
Ah, bah c'était très court.
Ah, bah je te dis, c'était très court.
Une bonne nouvelle flash, c'est ça ? Voilà, bon, d'accord. Bon, pour terminer l'édition, bah, du coup, il nous reste quelques minutes, hein, finalement. On va terminer en beauté.
Mais t'as beaucoup d'infos locales.
Oui, on a plusieurs infos locales, effectivement, à vous communiquer. Le jeudi prochain, une conférence de presse, le jeudi 24 mai, conférence de presse à 17h30 au local du CEFED. Comme Clarlis fait aussi partie du CEFED.
16 rue Chateaubriand, appartement 120.
Voilà.
À la Madeleine, non ?
16 rue Chateaubriand à Évreux, appartement 120, conférence de presse du collectif pour les migrations. Le collectif qui regroupe, donc, on vous le rappelle, le CEFED, qui regroupe RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui regroupe la Ligue des Droits de l'Homme, L'ADEME aussi, une association de Verdun qui nous a rejoint et qui recoupe Amnesty International Évreux. Là aussi, c'est une conférence de presse pour donner suite à cette fameuse loi dont on vous parle depuis plusieurs mois, dont on vous a reparlé encore aujourd'hui, la loi Asile et Immigration, qui est une loi effectivement inique, qui est en cours de vote au Parlement et qui fait la navette maintenant entre le Parlement et le Sénat. Voilà. Donc, conférence de presse le 24. Bon, l'appartement n'est pas très grand, donc avec la presse et nous, il va y avoir déjà y avoir du monde. Mais ça n'empêche pas que si vous avez envie de nous, venir nous voir, n'hésitez pas. Après, le samedi 9 juin, on sera présent, nous, Amnesty Évreux, on va tenir un stand au festival musical Ça sonne à la porte. Samedi 9 juin, c'est à Grosseuvre.
C'est une grande première.
C'est une grande première, tout à fait.
Pour Amnesty, oui, mais pas pour nous.
Pas pour nous. Avant, on faisait le festival, le rock dans tous ses états. Mais comme on ne va pas au festival tel qu'il existe maintenant, non. On n'y va plus.
Non, on n'en parle pas.
Voilà, on n'en parle pas. Donc, on a décidé de nous diriger nos pas vers le festival Ça sonne à la porte à Grosseuvre. C'est pas loin d'Évreux, hein. C'est à quoi, 10 km, même pas. Oui, 10 km d'Évreux.
Même pas.
Et donc c'est le samedi après-midi, c'est uniquement le samedi, hein, c'est pas le week-end, uniquement le samedi. L'entrée est gratuite, donc raison de plus pour y venir. Moi j'ai vu, je suis allé à la présentation de la programmation au courant du mois d'avril à la salle des musiques actuelles. Il y a des groupes qui ont l'air intéressants, donc musicalement ça va être bien. Et puis il y aura nous, donc ça vaut déjà le coup d'y aller puisqu'il y aura nous.
Et les pétitions à signer.
Et les pétitions à signer, et les infos sur Amnesty, évidemment. Ah, donc ça, on vous rappelle le samedi 9 juin. Après, on sera, vous donne un autre rendez-vous à Évreux, cette fois, le mardi 19 juin. Au mois de juin, on va être très présent. On fait une soirée débat au cinéma Pathé, autour du film Human Flow. Le film Human Flow, c'était fait par un Chinois, dont j'ai oublié le nom, parce que c'est un nom chinois, vous m'excuserez. Donc c'est un artiste chinois qui a fait, c'est un film de montage sur justement le problème des réfugiés à travers le monde, dans tous les pays du monde, et moi j'ai pas vu ce film encore, il est encore jamais passé à Évreux. Le cinéma veut bien le passer pour organiser notre soirée, donc on vous donne rendez-vous le mardi 19 juin, à 20h, au Ciné Zénith, autour de la soirée débat, autour du film Human Flow. Vous en parlez autour de vous, on vous le redira d'ici là, mais il faut déjà retenir la soirée.
Et je l'apprends en tant que les auditeurs, parce que...
Oui.
Non, mais je n'étais pas au courant.
Ça a été décidé il y a 8 jours avec le cinéma. Donc voilà, c'est pour ça que même les gens du groupe, tout le monde n'est pas au courant. Et puis il y aura d'autres dates de cinéma, mais on vous le dira par la suite.
Et regarde l'heure.
Oui, je regarde l'heure. Et donc, dernière info locale, le dimanche 1er juillet, c'est un peu après, mais nous tenons devant notre local, là, sur la place...
comment ça s'appelle ? L'Espace Saint-Léger.
La place de l'Espace Saint-Léger, merci Ronan. On tient notre foire au livre annuel, en plein air et sous détente.
Oh, c'est la deuxième année. Hein,
deuxième année, dimanche 1er juillet. On compte sur vous aussi pour venir acheter les livres parmi les quelques milliers qu'on a, qui nous ont été donnés en soutien à Amnesty. On se retrouvera le dimanche 1er juillet. On aura le temps d'en reparler, mais on vous en parle déjà. Voilà. Et la prochaine émission, c'est Françoise qui me fait signe, on se retrouve, nous, à l'antenne, dans 15 jours, le mardi 29 à 19h. D'ici là, il y a les podcasts des émissions sur l'antenne sur le site de Principe Actif, principeactif.net. Et on se retrouve en direct dimanche, n'importe quoi. Mardi 29 mai, dans 15 jours.
Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués